J'ai accepté de me faire mal. J'ai toujours compris qu'à un moment donné, si je voulais être la meilleure et que je voulais emmener mon sport quelque part où il n'avait pas encore été, l'explorer, c'était le seul moyen, en tout cas à l'époque, que j'avais de pouvoir le faire et de le réaliser.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Léa Lucas, je suis journaliste pour le magazine Courrier Cadre. Nous aurons l'occasion de nous découvrir toutes les deux semaines au gré des conversations avec mes invités, des femmes courageuses, combatives, qui sont devenues des leaders dans de nombreux domaines, en dépit des obstacles. Cet épisode est le premier d'une longue série, il me fallait donc une femme d'exception pour incarner la notion de défi. D'audace, j'ai donc pensé à une sportive, mieux à une championne. Alison Pinault, handballeuse olympique, est mon invitée. À presque 35 ans, la championne de handball est au crépuscule de sa carrière sportive. Dans une biographie sortie en janvier, elle revient sur ses combats personnels et sportifs. À 17 ans, elle est sélectionnée pour la première fois en équipe de France. À 20 ans, elle est élue meilleure joueuse au monde. Aucune autre Française n'a remporté ce titre depuis. Ensuite, elle atteint les sommets, championne du monde à 28 ans, championne d'Europe à 29, puis championne olympique à 32 ans. Son ultime défi, les JO de Paris 2024. Est-elle fière du chemin parcouru? A-t-elle des regrets? Que lui reste-t-il désormais à accomplir? C'est parti, saison 1, épisode 1. Bonjour Alison Pinault.
Bonjour Léa.
Je viens d'énumérer certains de vos nombreux accomplissements. La petite Alison de 12 ans, qui a débuté dans un club amateur d'Aubervilliers, pensait-elle tout rafler un jour?
La gamine qui avait des rêves à réaliser tous ceux qu'elle souhaitait. Est-ce que j'y pensais quand j'étais petite? Oui, en tout cas, c'était mon objectif. C'est vrai que je ne savais pas quel sport je souhaitais faire quand j'ai débuté. J'étais un peu une touche à tous les sports. J'ai fait les camps de vacances dans ma ville, les étés. Et je tendais plutôt vers un sport individuel. En tout cas, c'est ce que les gens percevaient en moi. Et puis, je suis partie vers un sport co. J'ai toujours su que j'allais faire une carrière sportive, mais je ne savais pas dans quel sport. Et mes rêves, ça a toujours été de remporter des titres avec l'équipe de France. Et aujourd'hui, je suis fière de ça, d'avoir réussi, de m'être donné les moyens d'atteindre tous ces objectifs.
Dans votre biographie, Ali, histoire d'une championne, vous dites que vous êtes d'un naturel pudique, mais là, vous vous dévoilez. Vous revenez sur votre enfance, vous parlez notamment des violences faites par votre père à votre mère. Est-ce que vous avez une rage de vaincre depuis cette période-là? Et est-ce que ces victoires sont une forme de revanche pour votre maman?
Ces victoires, c'est surtout la volonté d'un combat personnel. En effet, je suis plutôt quelqu'un pudique sur mon intimité, mais ce bouquin, ça a permis de mettre des mots sur des mots. Ça m'a permis aussi finalement d'avoir une vraie réflexion par rapport à mon identité, par rapport à qui je suis en tant que femme. Et puis, parler de ça, c'est aussi un message pour les autres, pour dire que dans la vie, on peut peut-être... mal commencé, mal débuté, j'ai été victime de ça, et surtout ma mère, c'est aussi pour moi, en honneur, en lui disant, pour lui expliquer le courage dont elle a fait pour nous protéger, de lui dire que c'est une femme de courage, ce n'est pas la seule femme à être victime de tout ça, aujourd'hui dans la société, il y en a plein, malheureusement, on a la sensation que ça se banalise, plus le tabou... ces barrières et que la parole se libère, on a la sensation que finalement, il y a énormément de gens autour de nous qui sont victimes de ça. Ces victoires, ce n'est pas une revanche sur la vie, pas du tout, mais c'est pour surtout dire que quand on veut, on peut. Quand on a envie de se dépasser, de se sortir de quelque chose, on peut le faire. Bien sûr, sur le chemin, il y aura toujours des obstacles. Et voilà, de simplement dire que tout est possible dans la vie quand on veut, quand on est déterminé, quand on est prêt à faire tous les efforts qu'il faut pour justement atteindre ses objectifs. Donc voilà, je viens d'une famille modeste, ma mère a été victime de ça et pourtant j'ai quand même réussi. Cette rage Je ne sais pas si c'est une rage de vaincre, mais surtout cette détermination, ce courage dont je fais dans la vie, cette résilience que j'ai. Bien sûr, ça part aussi de là. C'est ce que j'ai vu au travers de ma mère. Donc, bien sûr qu'il y a énormément de choses qui partent de là.
Tout au long de votre parcours, une autre figure féminine vous inspire, vous donne de la force. Marie-Josée Pérec, athlète française née en Guadeloupe, triplement médaillée aux JO de Barcelone en 92 et aux JO d'Atlanta en 96. C'est d'ailleurs elle qui a écrit la préface de votre livre. J'imagine que personne d'autre qu'elle ne pouvait l'écrire, cette préface.
Tout à fait, ça a été vraiment très rapide sur le choix de la personne. Marie-Jo, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça a été un exemple pour moi. On est de la même île, je suis longiligne qu'en elle. Dans ma jeunesse, on m'a beaucoup comparé à elle en me disant « tu ressembles beaucoup à Marie-Jo, une coupe de cheveux ». Donc c'est fantastique, moi je rêvais de faire comme elle, je rêvais d'être sur le toit de l'Olympe. Marie-Jo, c'est une icône, donc c'est, pour moi ça a été extrêmement facile de choisir la personne qui pouvait écrire cette préface parce que ça a été mon inspiration, mon modèle et c'est une fierté aujourd'hui de me dire que, et un honneur surtout pour moi de me dire que c'est Marie-Jo qui a écrit ma préface parce que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde et on sait la pudeur que peut avoir Marie-Jo et je suis très fière de ça et je la remercie encore d'avoir accepté. Quand j'ai commencé à écrire ce message pour lui demander si ça lui plairait de le faire, elle a répondu du tac au tac, il n'y a pas eu une seule hésitation. Donc ça fait énormément corps avec ce que je dis dans mon bouquin. Donc ça me fait énormément plaisir, ça me touche.
Et comme vous, elle aimait la compétition, se surpasser. On l'écoute.
Ce qui me plaît, c'est de se dépasser, c'est de partir d'un point A pour arriver en fait à un point B. C'est tout le travail en fait qu'on fait, c'est de voir cette progression et finalement de se découvrir et de se dire je pensais pas que ça je pouvais le faire. Et je trouve ça vraiment très intéressant en fait sur ces sports-là où tout est mesuré, tout est décortiqué. Voilà, ça me plaisait énormément.
Est-ce que vous aussi, le dépassement de soi dont elle parle, c'est votre moteur pour aller toujours plus loin ?
Oui, toi, complètement. C'est quelque chose que j'ai véhiculé et que je continue à véhiculer dans mon quotidien. Le dépassement de soi, repousser toujours ses limites, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Et le fait, comme elle l'exprime, de te rendre compte que finalement, on peut être capable de tout quand on le veut, quand on est capable de faire les efforts, c'est un sentiment qui est très, très fort en tant qu'athlète parce que finalement, c'est ce qui continue à nous pousser, à nous motiver en disant « Ah, mais finalement, je suis aussi capable de le faire. Je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. Je ne pensais pas que j'étais capable d'aller aussi loin. » Forcément, il y a un prix toujours à payer et c'est jamais simple de se dire quand tu te lances, de dire « Ouais, c'est sûr que je vais réussir. » On n'est jamais sûr qu'on va réussir, mais on se lance le défi de se dire que c'est possible.
Et qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à votre palmarès pour que la réussite soit totale, pour mettre fin à votre carrière, alors avant ou après l'été prochain, ça dépendra de la sélection aux JO de Paris, et pour mettre fin à cette carrière sans regret surtout ?
Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas de réel regret dans ma carrière. Ma fierté, c'est celle de la femme que je suis devenue au travers de toutes ces années, de cet enrichissement, la femme qui s'est façonnée au travers de ses obstacles, de ses réussites. Et finir en apothéose, ce serait le plus beau des au revoir, je pense, pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas de regrets parce que j'ai gagné tout ce que j'avais à gagner avec l'équipe de France. Aller au jeu, ce serait magnifique. Gagner, de nouveau gagner les JO, ça serait extraordinaire de finir de cette manière, à la maison, avec un titre. Double championne olympique, enfin, ça serait encore écrire une nouvelle page d'histoire. Donc, je pense que c'est ça aujourd'hui le challenge pour moi, mais j'ai réussi tout ce que je souhaitais réussir, j'ai accompli énormément de choses, je suis une femme engagée, je pense aussi accomplie. La seule chose qui peut-être me chagrinerait, c'est le fait de ne jamais avoir remporté la Ligue des Champions avec mon club. On est toujours en lice. Donc, on va voir, la saison est encore loin d'être terminée. On est en bonne position, donc on verra bien si on arrive à rejoindre le Final Four. En tout cas, j'espère qu'on réussira à le faire. Et puis, plus si affinité.
Alors, ce que vous dites, ça rejoint un peu ce que vous écrivez dans votre biographie, toujours. Alors, je vous cite, « Même si toute ma carrière a été guidée par la soif de médailles et de trophées, cette frénésie incessante ne me manquera pas. » Est-ce que vous en êtes certaine, Alison ?
Oui, j'en suis certaine. Il y aura sans doute des moments au début, pas au tout début, parce qu'en général, au tout début, on est plutôt fatigué et on est content de retrouver cette forme de liberté. Mais je sais qu'en tant que sportive et surtout grande amoureuse de sport, j'ai ça dans le sang. Je vais continuer à faire du sport, vraiment en loisir, en détente, mais je vais continuer à me dépenser et je vais retrouver une certaine forme de travail dans ça. Par contre, les copines, le quotidien avec les filles de l'équipe, etc., ça, c'est sans doute ce qui va me manquer, mais la frénésie des calendriers, cette sensation d'être toujours dans la machine à laver, d'être timé sans arrêt pour tout et de ne pas choisir mes vacances, ça ne va pas du tout me manquer, non, pas du tout. Donc oui, je suis sûre parce que j'aspire à quelque chose. Personne n'est éternel. Il y a un temps pour tout, j'estime, dans la vie. Donc le handball, c'est une page qui va bientôt se terminer, sauf grand revirement de situation. et je suis impatiente de découvrir ce que ma prochaine vie a à m'offrir.
Concernant la suite de votre parcours, Alison, vous étudiez actuellement la finance à l'EDEC et par ce biais, vous voulez donner plus de visibilité aux femmes dans le sport.
J'ai la volonté, en tout cas, de continuer à m'engager dans cette direction. C'est vraiment une volonté pour moi qu'on parle plus des femmes dans le sport, qu'on leur donne plus de visibilité. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'y attache énormément d'importance et bien sûr, une fois que j'arrêterai ma carrière, je vais continuer dans cette direction-là. J'y aspire énormément parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a un champ des possibles qui n'a pas de limite. Et aujourd'hui, ce potentiel énorme, on sent qu'il est un peu barricadé. Donc j'espère, avec d'autres acteurs, qu'on réussira à continuer à pousser des portes, à se montrer, à dire que nous aussi, on peut faire aussi bien que les hommes, on le fait différemment, on a aussi des messages à faire passer, et c'est là le plus important. Et puis surtout, le sport féminin doit trouver son business model qui lui permettra à terme d'avoir une meilleure visibilité, d'avoir une meilleure considération des médias et d'avoir une exposition qui permette de voir beaucoup plus loin et de permettre à la génération qui arrive derrière de se dire que tout est possible et que le sport féminin de demain sera considéré à sa juste valeur.
Parce que vous, le fait d'avoir été une femme n'a jamais été un facteur bloquant dans votre carrière de sportive ?
Pas pour moi personnellement, mais pour d'autres personnes, c'est un blocage. On ne nous le dit pas directement, mais les choix se reflètent. Tout ça, donc pas directement concerné verbalement, mais à certains moments, indirectement, oui, tout à fait.
Maintenant, Alison, j'aimerais vous challenger sur un débat qui secoue le monde du sport. Renoncer lorsque le niveau de violence est trop important, acte courageux ou signe de faiblesse? Alors pour illustrer cette question d'actualité, j'aimerais revenir justement sur le parcours de Marie-Josée Pérec, parce qu'il montre parfaitement la progression du regard posé sur les violences dans le monde du sport, alors qu'elles soient psychiques ou physiques. Donc pour recontextualiser, en 2000, elle se présente au JO de Sydney, espère décrocher une 4e médaille d'or. La pression est immense, elle doit affronter une redoutable adversaire, l'Australienne Cathy Freeman. Après quelques jours sur place, elle craint pour sa vie, alors on ne saura jamais si la menace était réelle ou pas, mais elle monte dans un avion, renonce à la compétition. Depuis, elle est revenue sur cet épisode qui avait suscité à l'époque beaucoup de stupéfaction. On l'écoute à nouveau.
J'avais l'habitude de ce genre de pression. Enfin bon, c'était pas mes premiers jeux en fait de Sydney. Donc tout ce qui concerne en fait la compétition, ce sont des choses en fait que moi je pouvais gérer, que je savais gérer, même si Enfin, moi je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais lorsqu'on prépare les jeux, qu'on est attendu, que ce soit votre course qui est la course est la plus attendue, je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais c'est quelque chose de, c'est très très lourd à porter quoi.
En 2024, est-ce que vous pensez que son geste aurait été compris, que parfois pour se préserver il faut savoir renoncer et parfois renoncer pour mieux revenir?
Je ne pense pas qu'en 2024, les gens auraient mieux compris. Pas du tout.
Pourquoi ?
Cette dimension dont elle parle, l'environnement extérieur qui peut... parce que finalement, ce qui nous importe, c'est ce qu'on peut contrôler, mais tout ce qu'on ne peut pas contrôler, ça ne dépend pas de nous. Et comme elle l'exprime dans son témoignage, elle dit qu'il y a eu cette pression énorme à cause de cette course, à cause de Cathy Freeman, l'Australie qui essayait de se réconcilier avec la population aborigène, donc dont Cathy Freeman est issue. Tout ça, c'est quelque chose qu'elle a pas maîtrisé. C'est quelque chose où elle l'a vraiment senti. Et il y a eu une énorme pression. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire, mais elle, c'est comme ça qu'elle l'a ressenti, et donc les gens l'ont fait passer presque pour une folle.
Mm-hmm. Mais il y a eu un déchaînement médiatique à l'époque.
Exactement. Donc moi, je peux le comprendre en tant qu'athlète, mais le grand public ne le comprend pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu, ils n'ont pas vu ce qui a mené à cette décision dans un premier temps, parce que vous imaginez que ça fait 4 ans qu'elle se prépare pour Sydney. Elle sait qu'elle a attendu. Elle a gagné à Atlanta. Elle a gagné à Barcelone. Et donc, elle est l'athlète dont on attend un nouveau titre, donc une potentielle médaille d'or qui compte aussi au classement des médailles, etc. Donc, c'est hyper important. Mais les gens ne comprennent pas cette dimension extérieure qui a énormément pesé et qui lui a fait... se dire ma vie, je suis en danger, parce que qu'elle en vienne à dire je rentre, parce que c'est même pas abandonné, parce que il y a une telle pression et qu'elle est pas capable, parce qu'elle a déjà vécu, c'est une énorme pression. Quand on a gagné 3 titres sur une Olympiade à Barcelone, quand on arrive à Atlanta, on sait qu'on a attendu, elle sait qu'elle a attendu à Sydney, donc c'est un schéma entre guillemets répétitif. Mais l'environnement a tellement pesé, et puis elle a eu peur pour sa vie. Et je pense que si elle a eu peur pour sa vie, c'est qu'à un moment donné, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et le mieux pour elle, c'était de renoncer pour se protéger.
Alors vous-même, dans votre ouvrage, vous utilisez des termes antagoniques pour parler à la fois de la dureté de la pratique sportive à haut niveau, mais aussi de la saveur exaltante de la victoire. Vous, Alison, est-ce que vous avez fait le choix d'endurer la souffrance, de vous faire du mal pour devenir la meilleure ?
Bien sûr. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas d'autre moyen, entre guillemets. Et puis surtout, à l'époque où j'ai commencé, c'était comme ça. Moi, j'ai été éduquée à la dure en plus. Donc, il fallait filer droit, il ne fallait pas sortir, je dirais, du schéma. Et donc, j'ai eu cette habitude finalement de me plonger dans le travail et de toujours faire preuve de détermination et d'être dur au mal, entre guillemets, parce que quand on est éduqué de cette manière assez stricte, des fois, les parents peuvent avoir des mots qui sont durs, mais c'est dur pas pour nous blesser au départ, mais dur pour nous forger. Donc, j'ai été habituée à ça. Et oui, bien sûr, j'ai accepté de me faire mal. J'ai toujours compris qu'à un moment donné, si je voulais être la meilleure et que je voulais emmener mon sport quelque part où il n'avait pas encore été, l'explorer, c'était le seul moyen, en tout cas à l'époque, que j'avais de pouvoir le faire et de le réaliser.
Mais jusqu'à où il faut se faire du mal ? Parce que certains sportifs qui parfois renoncent disent que c'est parce qu'ils sont faibles.
Oui, il y a une approche... Il y a le fait de faire preuve de courage, il y a le fait de sortir de sa zone de confort et de se confronter à des choses qui nous font un peu peur et qu'on n'a jamais explorées. Et on ne sait pas si on va avoir le résultat escompté au bout. Donc, ce n'est pas de la faiblesse, je dirais. C'est le fait de... Je pense que c'est une histoire aussi de mindset. Moi, ce qui me caractérise, c'est vraiment ça. J'ai un mindset, je ne vais pas dire inébranlable, mais c'est ce qui me guide. Et cette force dans la vie, c'est que quand on a un objectif, on navigue un petit peu à vue, on a un plan, mais quand on va dans des zones qu'on n'a jamais explorées, on navigue un peu à vue et ça peut nous faire peur. Mais ce qui continue à me pousser, moi, c'est parce que je garde toujours en ligne de mire mon objectif final, parce que on sait qu'à un moment donné, il va y avoir des obstacles, il va y avoir ces moments de doute et qu'on peut un peu dévier, mais le plus important, c'est vraiment finalement de revenir dans le chemin qu'on s'est donné pour aller au bout. Et puis après, on verra ce qui se passe, mais quand on fait ce qu'on a toujours fait, on a les résultats qu'on a toujours obtenus. Donc, si finalement, on aspire à quelque chose de plus grand, de meilleur, qu'on n'a jamais atteint, il faut aller dans des endroits, dans des zones qui n'ont jamais été explorées.
Il faut sortir donc de sa zone de confort. Une violence toutefois dont le corps se souvient. Vous dédiez tout un chapitre à « soigner votre corps mis à rude épreuve » pour reprendre vos mots. Qu'en est-il aujourd'hui de ces douleurs physiques ?
C'est bien de faire du sport. C'est hyper important pour la santé. Mais faire du sport de haut niveau, ce n'est pas forcément bon pour notre corps. C'est une réalité. On voit bien, une fois que les sportifs mettent fin à leur carrière, surtout dans les sports de contact, dans les sports qui sont très physiques, je pense comme le handball, et on prend énormément d'impact, le rugby par exemple, on sait que le corps a de la mémoire. Voilà, donc il n'oublie pas et finalement on paye ça plus tard une fois qu'on arrête, et c'est même dangereux pour nous d'arrêter complètement le sport après, de ne rien faire. Parce que notre corps, il n'est pas habitué et du coup, on vieillit mal. Donc, bien sûr, c'est hyper important. Il y a cette santé physique. Il va falloir prendre soin de ce corps après la fin de carrière.
Et maintenant, si vous le voulez bien, Alison, on va continuer avec la minute cap ou pas cap. Alors, le principe est simple, je vous pose quelques questions, rapides et légères, et vous me répondez uniquement par cap ou pas cap. C'est parti ! Alison, cap ou pas cap de ne pas faire de sport pendant 3 mois ?
Pas cap.
Cap ou pas cap de mentir à votre mère sur une grave blessure pour ne pas l'inquiéter ?
Oui, cap.
Cap ou pas cap de manger un burger frites la veille d'une grande compétition ?
Pas cap, non. Honnêtement, pas cap. Pas la veille d'un début de compétition, je pense pas. Non.
Cap ou pas cap de ne pas suivre les conseils de votre entraîneur pendant un match important ?
Oui, cap.
Cap ou pas cap de quitter votre compagnon parce qu'il n'accepte pas votre carrière de sportive ?
Oui, cap.
Cap ou pas cap de ne pas rentrer en France de toute une année ?
Non, pas cap.
Cap ou pas cap de faire un crochet à votre adversaire pour remporter un match ?
Oui, cap.
Cap ou pas cap de remporter les JO 2024 ?
Oui, cap.
Et pour terminer, Alison, est-ce que vous auriez un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour faire preuve d'audace ?
J'ai un dicton que je me répète souvent, et c'est ce qui m'a permis d'avoir cette longévité dans ma carrière et qui, tous les jours, me pousse quand j'aspire à faire des choses, des grandes choses ou à créer des projets. Ce que j'ai appris au travers de toutes ces années, ce que le handball m'a apporté, toutes mes expériences à l'étranger, cette ouverture d'esprit, c'est de dans la vie, quand on se fixe un objectif, il y a un peu cette recette, et donc tu te fixes un objectif, tu mesures le prix et tu payes le prix. Et ce qui fait que souvent, ce qui dépasse l'excellence à l'hyper-performance et à des champions, c'est ça. C'est cette capacité à se fixer un objectif, à mesurer le prix à payer pour pouvoir l'atteindre et ensuite payer ce prix.
Merci beaucoup, Alison Pinault, d'avoir inauguré ce podcast. Je garderai un œil sur les sélections pour les JO début juillet prochain et vous souhaite bien évidemment bonne chance pour la suite. Je donne rendez-vous à celles et ceux qui nous écoutent donc dans les librairies pour retrouver votre biographie Ali, histoire d'une championne. Merci beaucoup.
Merci.
Merci également à vous, toutes et tous, de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode de Femmes de défi. Je compte sur vous pour me faire des retours, me suggérer d'autres invités dont vous aimeriez découvrir le parcours et bien sûr pour en parler au maximum autour de vous et pour diffuser cet épisode sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse et vous dis à très vite.